Bonjour à tous, vous êtes bien sur Aligre FM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec la technique aujourd'hui Amazir Amadaïn guest, Enrico Mastro Giovanni et Raphaël Capdevila. Cette émission, une fois par mois, est consacrée à l'histoire du cinéma, c'est Vive le cinéma Perspective, nous accueillons une fois par mois, donc, un historien, un critique, un chercheur en cinéma pour faire un point sur l'actualité de la recherche en histoire des films. Aujourd'hui, nous allons creuser une histoire mystérieuse, une histoire méconnue du cinéma, celle des films qu'on dit expérimentaux, avec l'un des artistes les plus singuliers du genre, le cinéaste Patrice Kirchhoffer, disparu en 2019. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Minnesota. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors vous êtes réalisateur, chef opérateur, vous avez notamment travaillé avec Luis Corecchi et Agnès Varda et vous avez connu, côtoyé Patrice Kirchhoffer au point de lui consacrer un livre, Patrice Kirchhoffer, un cinéma pariétal, paru récemment aux presses du Réel. Alors je pense que si je dis le nom de Patrice Kirchhoffer, la plupart de nos auditeurs ne voient pas exactement de qui il s'agit, c'est le cas de la plupart des cinéastes expérimentaux. En un mot, Patrice Kirchhoffer, qui était-ce ?
Alors, Patrice Kirchhoffer, c'est un cinéaste expérimental des années 70, enfin, qui a été très actif dans les années 70, et qui est assez connu un petit peu dans le milieu du cinéma expérimental français, parce qu'il a participé et il a dirigé de nombreuses associations, collectifs. Mais oui, c'est comme de nombreux cinéastes expérimentaux, c'est quelqu'un qui est malheureusement peu connu du grand public.
Et si on doit décrire ce qu'il faisait, ses films, parce que c'est ça l'essentiel, ça ressemble à quoi un film de Patrice Kirchhoffer ?
Alors, un film de Patrice Kirchhoffer, déjà, ils sont tous très différents. Il y a plus d'une trentaine de courts-métrages à son actif. Il a toute une partie de son œuvre qui est une partie très plastique, où vraiment il va travailler vraiment sur la matière pellicule, sur la décomposition de l'image, sur la reproduction du mouvement, sur comment reproduire un mouvement statique, un mouvement... Et une partie un peu que moi j'appelle une partie linguistique où il va s'interroger sur le langage, sur le cinéma en tant qu'écriture. Et voilà, qui est plus une partie un peu linguistique. Voilà.
Et comment est-ce que lui commence à faire ce type de film ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on tombe dans le chaudron du cinéma expérimental ?
Alors, quand on l'interroge, en fait, on se rend compte qu'il a toujours voulu faire ça. Il a toujours, s'est toujours intéressé aux images, aux films. Et d'ailleurs, dans sa filmographie, quand on lui demande d'écrire sa filmographie, il note ses films de famille qu'il a fait étant enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a poursuivi dès le début. Et il est complètement autodidacte. Donc il a vraiment refusé de faire des écoles de cinéma. Il a vraiment totalement appris tout seul. C'est vraiment un enfant de la génération 68. Il a refusé de passer le bac. Il ne voulait pas devenir un patron. Il voulait devenir ouvrier. Et il s'est mis au cinéma de façon autodidacte et en commençant un peu par l'animation.
Mmh. Oui, il appartient aussi à une mouvance aussi qui émerge dans les années 70 où on a envie d'essayer des choses avec la pellicule, de s'amuser, de aussi produire d'autres choses qu'un cinéma narratif comme auquel on est habitué. Ça raconte aussi l'époque puisqu'on trouve la même chose dans d'autres domaines artistiques que le cinéma. Mais dans le cinéma, il y a le festival Jeune Cinéma qui est l'un des moments emblématiques du cinéma expérimental. Lui, il appartient à cette mouvance-là, je dirais, du cinéma expérimental des années 70.
Alors oui, complètement. Ouais. Dans les années 70 en France, il y a vraiment l'émergence d'une génération très active, très productive, très talentueuse aussi, de cinéastes expérimentaux. Et un petit peu poussé un petit peu par aussi ce qui vient des États-Unis avec Jonas Mikas et Stan Mikkels, qui ont une aura assez forte et qui dépasse un peu les frontières. Et Patrice, lui, va vraiment se plonger un peu dans cette mouvance et il va participer donc au collectif Jeune Cinéma, qui est une association de distribution de films expérimentaux. Il va créer la revue Cinéma Différent, qui est une revue dédiée aux films expérimentaux à cette époque-là. Et puis après, il y a plusieurs autres associations, de coopératives de distribution qui se créent au fil des années, des amitiés des envies. Donc lui, il va créer la coopérative des cinéastes, qui sera une grosse coopérative de distribution de films, de cinéma expérimentaux aussi. Il le fait avec Gérard Courant, Martine Rousset. Et puis après, le collectif KMP. C'est un collectif plus resserré autour des cinéastes Gisèle et Luc Michler, Georges Pastrana et Patrick Schoeffer.
C'est amusant ce nombre de collectifs, de groupes, quand on parle du cinéma expérimental. Et vous faisiez parallèle avec Jonas Mekas, qui lui aussi avait son cinéma, qui proposait des films expérimentaux. Cette envie aussi des cinéastes de diffuser leur cinéma et de faire collectif, qui semble assez paradoxal avec l'art solitaire, qui est celui de faire un film expérimental. Finalement, il y a quelque chose du groupe aussi dans le travail de Patrice Kirchhoffer et des cinéastes expérimentaux.
Alors, Ce qui est intéressant quand on s'intéresse au cinéma expérimental, c'est de voir qu'il y a c'est à la fois un cinéma marginal qui vraiment s'extirpe un peu du cinéma classique traditionnel et de toute l'industrie qui va avec, donc qui recrée son petit microcosme, sa façon de travailler. Et en fait, tous les cinéastes expérimentaux sont tous très différents et très singuliers les uns des autres. Alors il y a évidemment des écoles, des mouvances. Mais ils ont aussi besoin, voilà, quand même de travailler, d'exister, de diffuser leurs films. Et on va retrouver des ateliers qui vont se créer et aussi des collectifs de distribution qui vont permettre un petit peu de diffuser les films. Et puis le festival d'hier aussi, voilà, qui était un festival très dynamique.
Le festival Jeune Cinéma.
Qui a
beaucoup fait pour le cinéma expérimental. D'ailleurs, c'est amusant, il y a un film qui sortira prochainement qui raconte un peu cette histoire, et on voit des cinéastes. Alors c'est aussi drôle de voir des cinéastes qui ne sont plus des cinéastes expérimentaux, mais qui l'étaient à l'époque, comme Philippe Garrel, par exemple, présenter leur film, et on voit que c'est aussi une époque, quoi. Il y a un dynamisme lié à cette époque-là. Est-ce que enfin, pour vous qui êtes aussi toujours dans ce milieu du cinéma expérimental, est-ce que c'est toujours pareil aujourd'hui, ou est-ce que ça s'est un peu perdu ?
Alors, moi, j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas... Il y a une histoire parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le cinéma industriel traditionnel qui a son histoire, qui remonte à la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais en fait, très tôt, il y a un cinéma parallèle qui n'est pas narratif, qui est plus plastique, qui est un peu plus intellectuel aussi, et qui va se créer. En fait, dès les années 20, on voit des films sans caméra qui sont faits par Man Ray. Hans Richter arrive aussi à faire des films très tôt. Et ça va se prolonger un peu tout le long du XXe siècle. On va avoir plusieurs époques. L'illettriste aussi, par exemple, dans les années 50 en France, dans les années 70, voilà, qui sont un peu représentées par toute cette génération du collectif Jeune Cinéma, et puis jusqu'à l'art vidéo dans les années 80. Voilà. Il y a toute une histoire un peu parallèle qui est aussi du cinéma, en fait. Hein. C'est vraiment c'est juste une façon un peu différente de voir le cinéma. On considère que voilà, c'est pas seul le cinéma, pas seulement raconter une histoire, mais on va aller interroger d'autres choses, plastiques ou abstraites.
C'est d'ailleurs amusant comme on a commencé à parler de cinéma d'avant-garde pour après parler de cinéma expérimental. Je veux dire, il y a un changement de lexique à un moment donné.
Oui, alors on parle en général, quand on dit cinéma expérimental, cinéma d'avant-garde, on fait plutôt référence donc au cinéma des années 20. Avec les cubistes, Hans Richter que j'ai cité, et on continue à utiliser cette dénomination. Moi, j'ai toujours l'utiliser de façon contemporaine. Je trouve ça un petit peu prétentieux, donc c'est pas le terme que je préfère. Mais de toute façon, dans ce cinéma un peu parallèle, on a vu énormément de dénominations. C'est qu'il y a eu, on a dit expérimental aux États-Unis. On va plutôt dire underground, il y a eu avant-garde, on dit vidéo art pour les années 80. Finalement, c'est un cinéma parallèle, plus proche de l'art plastique. Et chaque génération, époque, pays, mouvance, va avoir une terminologie un peu différente. Après, on l'appelle un peu comme on veut, mais il n'y a pas vraiment terme qui s'est imposé.
Oui, à chaque fois, ça renvoie à un univers propre. Quand on dit cinéma d'avant-garde, on pense aussi à l'art moderne du début du XXe siècle. Si on dit cinéma underground, on pense à la Factory d'Andy Warhol et à ce monde-là qui recoupe aussi beaucoup la musique. Si on reparle de Patrice Kirchhoffer, lui, il est plus proche de ces deux mondes. Parce que Louis Skorecki parle de lui comme du prince de l'underground.
Oui, lui, il est vraiment très proche du cinéma expérimental. Et c'est vrai que quand on dit cinéma expérimental, on se réfère beaucoup aux années 70 en France. Et pour terminer, voilà, sur cette problématique un peu de la dénomination du genre, le livre de Dominique Noguès, donc un universitaire qui s'est spécialisé un peu dans ce cinéma-là, a écrit un livre qui fait référence, qui s'appelle « L'éloge du cinéma expérimental ». Et en fait, le terme « expérimental » est barré sur le titre et tout le long du livre. C'est une façon de montrer que le terme est à la fois utilisé, mais pas forcément le plus approprié. Et d'ailleurs, ça fait tort aussi un peu au cinéma expérimental et aux cinéastes eux-mêmes, parce que en fait, c'est pas que des expériences, en fait. Ils font pas que des tests, c'est aussi des œuvres abouties, des films aboutis, qui vont peut-être chercher des choses un peu inhabituelles, mais c'est des œuvres en tant que telles, donc c'est pas juste une expérience à chaque fois. Donc le terme même n'est pas vraiment approprié, en fait.
Mais je vous propose justement d'écouter comment est-ce que Patrice Kirchhoffer, lui, parlait du cinéma expérimental, et ça nous permettra aussi d'entendre sa voix.
Le cinéma expérimental, j'aimais bien y aller, je t'ai déjà dit sans doute. C'était ce que j'aime bien, c'est quand on s'intéresse plus à ce qu'il y a sur l'écran, quoi. C'est-à-dire qu'on s'en fout, on est ailleurs, quoi. On est dans un rêve, on n'est plus. Il n'y a pas d'histoire, on n'est pas accroché, on s'identifie plus à rien. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu pas hypnotique, parce que c'est pas le cas, parce qu'on n'est pas fasciné par les images, mais. Les images et ce qui se passe, il y a un moment, on arrive à s'en moquer totalement, ça n'a plus aucun intérêt, c'est du bruit, des images, et puis on part dans une réflexion des messes d'enfance. Moi, je sais pas, tu comprends rien, le latin, tu comprends rien, tu sais pas ce qui se passe, on te parle de trucs invraisemblables, et au bout d'un moment, tu t'es plus là, tu décolles, quoi. Et ça, c'est des moments extraordinaires, ça. Des moments où tu peux réfléchir intensément.
Oui, on vient d'entendre Patrice Kirchhoffer nous parler de son expérience du cinéma expérimental. Et là, que c'est intéressant aussi, c'est qu'on parle souvent d'expérience pour le cinéaste, mais c'est aussi une expérience pour le spectateur de voir ses films. Et ça, il le raconte bien, je trouve.
Oui, alors j'aime beaucoup ce passage où Patrice raconte son rapport au cinéma expérimental. Parce que déjà, ça décomplexe un peu les spectateurs, les gens qui ne connaissent pas ce cinéma-là. Qui est vu comme quelque chose de très difficile d'accès, parfois un peu intellectuel et inabordable, alors que, en fait, non, ça peut être pris de façon très frontale et très, très sensorielle, très sensible. Et c'est aussi c'est une expérience pour le spectateur, et c'est cette expérience, en fait, pour le spectateur qui va ouvrir des portes à l'analyse, à d'autres sensations, à un autre rapport, en fait, au cinéma qui n'est pas forcément narratif.
Ce qui est assez amusant dans les films de Patrice Kirchhoffer, c'est qu'ils ont des titres qui sont à la fois très techniques et en même temps assez mystérieux, mais qui peuvent aussi orienter le spectateur dans sa vision des films. J'en cite quelques-uns, sensitométrie, chromaticité, densité optique et même anorexie. Terme parfois très clair, parfois un peu moins clair. Qu'est-ce que ça nous raconte, ces titres sur ces films ?
Alors c'est vrai que c'est des titres un petit peu abrupts au départ. C'est beaucoup des titres qui font référence à des propriétés de l'image, techniques, très techniques. Une fois qu'on a vu ça, chaque titre rentre dans une série et on se rend compte qu'à chaque fois dans chaque série, il va explorer une propriété très spécifique du cinéma. Notamment avec la série Sensitométrie, qui est vraiment très parlante. Il va vraiment s'intéresser à la reproduction du mouvement, comment on reproduit un mouvement fixe à travers de l'animation et différentes techniques. La série Chromaticité, beaucoup plus introspective. La série Anorexie vraiment dérive un peu sur le langage, parce qu'on se rend compte qu'il utilise un peu des images types, des images un peu mythologiques pour recréer une forme de narration détournée. Mmh. Donc chaque série de films, en fait, permet d'entrer un peu dans un des univers du cinéma.
Et puis certaines de ces séries de films, même beaucoup, sont liées à la matière du cinéma, à la pellicule. Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé avec l'histoire du cinéma, le basculement de la pellicule vers la vidéo. On parle des années 70, on est dans le cœur du 16 mm et ce type d'expérience. Lui, c'était un artiste plus du cinéma argentique, finalement.
Alors, complètement, voilà, on parlait des différents groupes de cinéma expérimental dans l'histoire, et c'est vrai qu'il y a aussi les techniques qui vont un peu les marquer leur pratique, notamment dans les années 70 avec le 16 mm et dans les années 80 avec l'apparition de la vidéo et de la VHS avec le vidéo art. Donc Patrice Kerschhofer, il s'inscrit vraiment dans cette génération de la pellicule. Et il va travailler un peu la pellicule comme objet matériel, un peu comme un peintre, en fait. Il va travailler un tableau, donc il va la décomposer physiquement avec des acides. Il va aussi gratter dessus. C'est aussi une façon d'imposer un peu la matérialité du film. Et il va encore plus loin, c'est qu'il refuse de faire des copies de ses films. Donc en fait, tous ses films 16 mm n'existent que dans une seule copie pellicule 16 mm, un peu comme un tableau d'un peintre qui ne pourrait avoir qu'une seule version, qui serait la version originale. Bah là, voilà, il y a la version originale du film qui est la copie 16 mm du film. Et après, dans les années 2000, il va commencer à faire des films numériques avec les outils numériques qu'on connaît aujourd'hui. Mais tout en gardant un petit peu le même travail de décomposition, recomposition du mouvement et un gros travail aussi là sur l'aspect de l'écriture et la linguistique.
Vous parlez d'un rapport finalement presque pictural, ou en tout cas comme des peintures et des œuvres d'art, ce côté unique de certains de ces films. C'est vrai que quand on parle aussi aujourd'hui de cinéma expérimental ou de cinéma d'avant-garde, on pense au travail muséal, des musées d'art contemporain qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle l'art vidéo aussi, qui t'a acheté des œuvres comme on achète des peintures. Alors déjà, peut-être première question, c'est les œuvres de Patrice Kerschhofer aujourd'hui, elles sont où, puisqu'elles existent dans des œuvres uniques? Et est-ce que le monde muséal s'est intéressé à Patrice Kerschhofer, et est-ce que lui s'est intéressé au monde muséal?
Alors, oui, il y a vraiment un rapport qui est celui proche du peintre. Et d'ailleurs, il signait un peu ses films en grattant la pellicule de ses initiales à la fin de chaque film. Donc on est vraiment on est proche d'un peintre qui va signer sa toile. Et pour l'anecdote, en fait, l'apparition du Centre Georges Pompidou, donc du Musée National d'Histoire de l'Art, je crois que c'est à peu près en 74-75, dans ces années-là, le Centre Pompidou va s'intéresser un petit peu au cinéma expérimental et va vouloir acheter des œuvres. Et il propose à Patrice Kerschhofer d'acheter le film Densité optique 1. Et Patrice refuse, en fait, catégoriquement, parce qu'il fait partie de toute une vague d'artistes qui sont contre le Centre Pompidou. Georges Pompidou, qui représente l'institutionnalisation du marché de l'art. Et il refuse aussi de vendre ses films, et parce qu'il refuse d'en faire une marchandise financière. Quoi.
Et donc, ils sont où, alors, ces films?
Alors, aujourd'hui, on peut les voir. Ils ont été récupérés par l'association LADCON, qui est un collectif de création et de distribution de promotion du cinéma expérimental. Donc c'est l'Alcon qui a les copies 16 mm et ils ont été en grande partie numérisés. Donc ils peuvent être diffusés dans le cadre de séances de cinéma régulières.
Et c'est eux qui conservent alors le master du film, la, la, la bobine originale.
Voilà, les copies 16 originales sont à l'Alcon aujourd'hui et fort heureusement, voilà, c'est un travail que Patrice a fait à la fin de sa vie. Il s'est réinvesti dans un collectif de cinéma, donc au sein de l'Alcon. Il a passé beaucoup de temps et il a déposé ses films là-bas. Ce qui fait que voilà, c'est une très bonne nouvelle parce que les films sont sauvés. Et ce qu'ils aient maintenant qui sont numérisés et qui sont conservés, voilà, ils vont, on va pouvoir les voir.
Oui, on peut continuer à les voir et à les programmer. Ces films sont aussi, c'est quelque chose d'important à dire, pas tous, mais certains musicaux. En tout cas, il y a un accompagnement musical qui est important et qui renvoie aussi à une histoire de la musique expérimentale pour certains, avec des compositeurs comme John Cage ou d'autres qui sont des figures de la musique contemporaine, ou en tout cas de la musique dite expérimentale. On va écouter un extrait d'une musique qui accompagne dont un extrait accompagne le film Sensitométrie 3 en 1975, c'est Four Organs de Steve Reich. Je vous propose d'en écouter un petit extrait d'une minute.
Écoutez Aligre FM 93.1.
De retour dans Aligre FM sur Vive le cinéma perspective. On est toujours avec Raphaël Minnesota, auteur de Patrice Kirchhoffer, un cinéma pariétal. Et donc nous parlons donc de ce cinéaste expérimental Patrice Kirchhoffer. On vient d'écouter une musique qui accompagnait l'un de ses films. Lui aussi était musicien, lui aussi composait de la musique. Comment est-ce qu'il choisissait la musique qui devait accompagner ses films et pourquoi est-ce qu'il fallait-il de la musique pour accompagner ses films, Raphaël Minnesota?
Alors, Patrice Kirchhoffer était musicien un peu comme il était cinéaste, c'est-à-dire qu'il est complètement autodidacte, il n'a aucune connaissance en théorie musicale pure ou d'instruments, et il a vraiment travaillé à partir de nappes sonores, et notamment à partir d'un synthétiseur qui lui permettait de composer plusieurs sons. Donc c'est vraiment un travail de montage son, de montage de bruit ambiant, et parfois mélodique, parfois juste ambiant. Donc ça, c'était une grosse partie de la production musicale qu'il a pu faire pour ses films. Et à côté de ça, il avait une passion pour la musique répétitive, la musique sérielle, donc pas mal de Kraftwerk, Steve Reich qu'on vient d'écouter. Et je trouve l'extrait est très parlant parce que c'est aussi très proche du cinéma qu'il a pu faire, qui a été aussi beaucoup, beaucoup répétitif, beaucoup sériel. Et c'était très en lien un peu avec le cinéma qu'il pouvait faire.
Ouais, et c'est important que ces films soient accompagnés de musique, parce que ça donne un côté, quand on les regarde, c'est qu'on se laisse un peu entraîner, quoi. C'est-à-dire on a ce côté, il y a une dimension assez hypnotique, comme le sont les musiques et les images, cette répétition, ce côté un peu qui tourne.
Oui, mais c'est un peu comme si, à force de répéter quelque chose, on finissait par rentrer dedans, en fait. Mmh. Et un peu comme dans l'extrait où... qu'on a entendu tout à l'heure, où les messes en latin, on comprend rien, mais on finit par être transporté par quelque chose. Donc il y a, oui, il y a quelque chose d'un petit peu hypnotique, même si c'est pas vraiment hypnotique dans le sens d'hypnose, mais de presque, oui, proche des messes. Et on retrouve ça aussi dans ces derniers films sur le langage, où vraiment il y avait un travail de montage son entre extraits de films, extraits de voix, de conférences, de Jacques Lacan, de Roland Barthes, extraits d'ambiance sonore et de musique, et qui se répétaient comme ça, plus ou moins en boucle, parce que c'est jamais exactement la même chose, et qui permet un peu d'appréhender une notion du langage, un rapport au langage totalement différent.
Et ça dure combien de temps un film de Patrice Kirchhoffer? Parce que dans le cinéma expérimental, il y a toujours aussi un rapport au temps, parce que le temps de rentrer dans le système que nous propose le film, il nous faut un certain temps. Et en même temps, on a connu des histoires du cinéma expérimental, des films d'Andy Warhol qui durent une vingtaine d'heures. Enfin, cette question du temps est aussi assez importante, j'imagine, quand on propose ce type de film qui pourrait durer des durées assez relatives. Ça dure combien de temps un film de Patrice Kirchhoffer, Raphaël Minasoza?
Alors, il y a une petite série qui s'appelle Edison, qui date du début des années 2000, qui est assez courte. Donc, c'est des petits films qui font 3 minutes à peu près. Et je crois que les plus longs font une vingtaine de minutes. Ça ne dépasse pas les 30 minutes, ce qui est finalement assez court hein, pour les cinéastes de cette époque, qui avaient tendance à faire des films très longs. Pour l'anecdote, quand j'en parlais avec Patrice Kirchhoffer, il racontait que souvent aussi les cinéastes expérimentaux vivaient un petit peu, enfin mal, mais ils vivaient un peu de la diffusion de leurs films. Et les films étaient loués pour des diffusions par des coopératives et le prix des films était aussi décidé en fonction de la longueur et de la durée du film. Donc ça a un peu poussé certains cinéastes à rallonger leurs films.
Comme les écrivains du 19e qui écrivaient des romans très très longs parce qu'ils étaient payés à la page.
Oui, voilà, il y a un peu cette hypothèse-là qui aurait poussé pas mal de cinéastes à rallonger leurs films. Et d'un autre côté, oui, il y avait une fascination pour les expériences qui ont été proposées par Andy Warhol avec des films de 8 heures ou Michael Snow. Et... qui étaient un peu des expériences à vivre, rester 8 heures dans une salle de cinéma. Voilà. Donc, les deux cumulés, on peut se dire que ça a poussé pas mal de cinéastes à rallonger un petit peu leur film.
Mais vous disiez que certains cinéastes expérimentaux vivaient de la location des films, qu'ils en vivaient mal, mais ce qui veut dire qu'il y a quand même malgré tout une économie, même précaire, du cinéma expérimental. Mais Patrice Kirchhoffer, lui, il était un peu en dehors de cette économie-là. Enfin, est-ce qu'il vivait de... Il vivait de ses films ou pas?
Alors, je ne connais pas tous les cinéastes expérimentaux et je ne sais pas exactement comment ils s'en sortaient tous, mais bon, en général, on connaît peu de cinéastes expérimentaux qui ont fait fortune avec leurs films, ça c'est indéniable. Patrice Kirchhoffer, il était très clair dessus, c'est qu'il avait un métier à côté, lui il était... Il était fonctionnaire au ministère de la Culture et il a travaillé donc, toute sa vie pour les statistiques de la presse, et les statistiques des financements de la presse écrite.
D'accord.
Et c'était un métier qui lui permettait de garder un certain temps libre pour faire ses films. Et il ne voulait absolument pas à la fois lui gagner de l'argent avec ses films ou que d'autres en gagnent. Mmh. Voilà, ça faisait partie de sa démarche que pour lui, c'était vraiment la création est profondément, c'est un besoin vital profond à l'être humain et il voulait garder ça pur d'une certaine façon.
Oui, c'est intéressant ce travail de fonctionnaire en parallèle qui renvoie peut-être un côté facteur cheval de ce besoin de créer en même temps de faire quelque chose et en même temps de conserver son travail et de dire que c'est que quelque chose d'à côté. Enfin, les deux choses sont séparées quoi, quelque part.
C'est vraiment aussi un des axes à partir desquels je m'intéresse un peu et j'essaie d'analyser son œuvre, c'est-à-dire qu'il y a les films en soi, ce qu'ils nous racontent et ce qu'ils nous disent, et puis il y a la façon dont il les a fait. Et c'est vrai que de se dire d'avoir un cinéaste qui voulait absolument faire des films seul, de façon artisanale, en dehors du marché de l'industrie, en dehors du marché de l'art, qui voulait peu les diffuser et pas gagner d'argent dessus, qu'est-ce que ça nous raconte en fait? Ce que ça nous raconte, c'est que c'est vraiment l'envie de recentrer sur la création, le désir de création. Pourquoi je fais un film? Je le fais parce qu'il y a un besoin vital d'écriture, un besoin vital de faire des films. Et je pense qu'il a tenu à garder ça le plus intact possible tout au long de sa carrière. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs.
Oui, ça nous renvoie au titre de votre ouvrage, Patrice Kirchhoffer, un cinéma pariétal, titre un peu mystérieux comme le sont les titres des œuvres de Patrice Kirchhoffer, si on fait une explication de texte. Déjà, pariétal n'est pas un terme qu'on utilise très régulièrement dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un cinéma pariétal? Raphaël Minnesota.
Oui, c'est un titre... je dirais pas qu'il est énigmatique, mais oui, il est paradoxal, parce que c'est difficile de rapprocher le cinéma à l'art pariétal. Mais il avait l'avantage... Il permet de regrouper un peu vraiment tout... tout le rapport qu'avait Patrice Kirchhoffer avec son cinéma et sa création. Et il y a un petit extrait que j'aime beaucoup, qu'il avait écrit pour un précis sur le cinéma expérimental, où on lui demande à quoi bon faire des images aujourd'hui. Et je vais le citer, il dit « parce qu'on dit l'être humain doué de gestes, doué de paroles ou doué de raison, mais que nous ne sommes pas encore capables de le dire doué d'images. On n'a pas encore mesuré l'importance de cette chose-là. » Et il y a quelque chose de très profond en fait dans son rapport au cinéma, c'est de revenir vraiment au rapport à l'image, de dire que en fait l'image précède l'écriture dans la création, dans l'histoire de l'humanité et dans le développement de l'être humain. Et il est vraiment cherché à se rapprocher de ça. Et il s'est beaucoup intéressé aussi à l'art pariétal, en fait, c'est vraiment...
C'est quoi l'art pariétal?
Donc c'est tout ce qui concerne l'art préhistorique, les représentations dans les grottes préhistoriques. Donc c'était un gros fan d'André Leroy Gourhan. C'était un fan justement de ces représentations des hommes préhistoriques. Et ça l'interpellait beaucoup. Parce que justement, ces peintures... Les grottes de Lascaux sont très énigmatiques, on ne sait pas pourquoi elles ont été faites, à quoi elles servent. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elles ne servaient à rien, et c'est ce qui fait justement la beauté de ces peintures-là. Et donc ça veut dire qu'elles venaient vraiment d'un besoin de créer, d'un besoin de représentation ou pas de l'être humain. Et tout ce rapport-là, en fait, c'est un peu ce qui gouverne un peu l'œuvre de Patrice Kirchhoffer. Et c'est pour ça que c'est un vrai cinéma pariétal.
Oui, c'est le choix de l'image qui illustre la couverture du livre. On dirait un travail sur l'ombre. On pourrait presque être dans une grotte et voir un reflet d'une figure au loin sur les murs. C'est aussi c'est une image qui vient de quel film, celle qu'on voit
C'est une image donc de Chromaticité 1, qui est considérée un peu comme le chef-d'œuvre de Patrice Kirchhoffer, qui représente une figure d'homme qui avance sans avancer. Et toute la question de la représentation humaine, c'est vraiment quelque chose qui traverse un peu l'histoire de l'humanité, en fait, et l'histoire de l'art, surtout. Comment on représente ou pas l'être humain.
Et c'est quelque chose qui... la représentation... Parce que c'est vrai que les personnages sont présents dans ces films. Enfin, on voit des figures. Par exemple, des personnages, plutôt des êtres humains, des figures. Alors, il filme ses amis, par exemple, ou des personnes autour de lui. C'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres cinéastes expérimentaux de cette période-là. Vous parlez de Gérard Courant, par exemple. On retrouve aussi une idée de représenter des gens, de filmer des visages, mais lui a aussi une question sur le mouvement, quoi. Enfin, c'est un déplacement de personnes dans un espace.
Alors oui, vous citez le bon terme. En fait, c'est jamais vraiment des portraits. En fait, l'être humain est très présent dans tous ces films, mais c'est jamais vraiment des portraits. C'est beaucoup des figures. Donc, c'est vraiment des représentations assez métaphoriques de l'être humain. Donc, j'aime bien le terme de figure pour expliquer un petit peu tous les personnages un peu qui parsèment son œuvre. Et c'est en ça qu'il... C'est vraiment des figures symboliques de l'être humain. Donc ils vont pas représenter la personne. On peut reconnaître telle ou telle personne qui apparaît dans certains films, mais à la fois, ils représentent toute l'humanité à chaque fois, puisque il va aller se questionner dans tel ou tel film sur des questions du rapport à la mort, du rapport au langage, à l'enfermement du langage, du rapport au complexe de Sisyphe, enfin, à pas mal de choses comme ça.
Et comment est-ce que vous êtes venu, vous, vous intéresser à Patrice Kirchhoffer? Comment vous avez découvert son cinéma? Parce que c'est un cinéma qui est connu de ceux qui savent, de ceux qui connaissent, mais en dehors de ça, c'est difficile d'accès, a priori.
Alors, moi, j'ai fait des films expérimentaux, donc j'ai déjà un intérêt pour ce cinéma-là. Et puis après, j'ai fait des études d'histoire de l'art, et on m'a proposé donc, de travailler sur Patrice Kirchhoffer, et je l'ai découvert dans ce cadre-là. J'ai commencé à travailler sur son œuvre, et puis je n'ai pas arrêté depuis.
Et vous l'avez rencontré, c'est assez amusant dans les entretiens que vous faites avec lui, c'est que quand on en parle, on a l'impression qu'il y a cette dimension très sérieuse, très grave par rapport à son art, et comme on l'entendait tout à l'heure, finalement, il a pas mal de distance, il est assez léger, et quand on l'interroge, vous l'interrogez sur sa cinéphilie, c'est amusant, il cite « Oh, j'aime tout, j'aime Matrix », c'est assez drôle.
Et bah oui, Patrice, c'était quelqu'un d'assez drôle, en fait, et fort sympathique, et pas du tout clivant dans le... Alors, très radical dans son rapport à sa création et dans ses opinions, mais qui ne s'enfermait pas dans une mouvance. Et ce qu'il aimait bien, c'était trouver dans tous les films ce qu'il y avait de profondément humain, en fait. Et donc, il le trouvait aussi dans Matrix, donc dans La Guerre des Étoiles. Et voilà, il n'oppose pas le cinéma expérimental au cinéma traditionnel. Enfin, voilà, c'est un vrai cinéphile qui s'intéresse au cinéma dans sa globalité. Et bien sûr, il y a énormément de chefs-d'œuvre dans le cinéma traditionnel. C'est juste que les moyens d'y parvenir sont différents.
Oui, c'est deux choses différentes, deux choses parallèles, comme vous dites, le cinéma expérimental, c'est pas des choses concurrentes, quoi. Il n'y a pas l'idée, on fait ça plutôt qu'autre chose, le cinéma expérimental est mieux que le cinéma traditionnel, c'est vraiment, il faut imaginer ça comme deux choses séparées, finalement.
Oui, bah ça, c'est mon rapport au cinéma expérimental, et puis c'était aussi celui de Patrice Kirchhoffer, c'est que vraiment, c'est l'idée d'explorer le cinéma dans toute sa puissance créatrice et dans tout ce qu'on peut faire. C'est ce qu'a cherché à faire Jean-Luc Godard aussi tout au long de sa carrière, qui finalement est un cinéaste qui était un peu entre les deux, un peu inclassable et un petit peu entre les deux. Donc oui, c'est pas du tout deux cinémas qui s'opposent. Et Patrice avait très bien compris ça, et ça lui permettait d'avoir voilà, une cinéphilie très large.
Puis cette phrase, il n'est l'élève ni le disciple de personne. Pouvez-vous nous rappeler qui a dit cette phrase?
Alors c'est Raphaël Bassan, qui est le grand critique de cinéma expérimental en France, qui est vraiment quelqu'un qui a suivi le cinéma expérimental depuis les années 70, et qui a beaucoup écrit. D'ailleurs on espère, je ne sais pas si un jour on aura un recueil de tous ces textes, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Et dans un entretien dans le magazine Bref, voilà, il dit Patrice n'est ni l'élève ni le disciple de personne, ce qui résume bien un peu son rapport, c'est-à-dire qu'il y a à la fois son côté autodidacte, vraiment, il a vraiment beaucoup appris tout seul. Et oui, on peut pas le rattacher à des mouvances ou à d'autres grands artistes dont il aurait pu s'inspirer. Et c'est vrai que même quand on lui demande, il va citer comme source d'inspiration tous les penseurs structuralistes, donc de Jacques Lacan à Lévi-Strauss, en passant par André Leroy Gourhan, qui sont pas du tout des artistes, quoi. Mm-hmm.
Et il n'a pas de successeur, alors il n'y a pas de personne qui s'inscrive un peu dans cette manière d'appréhender, pas tant stylistiquement, mais peut-être intellectuellement, le cinéma aujourd'hui. Ce qui renvoie peut-être à une autre question plus générale, c'est qu'il appartient à un courant, celui des années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde du cinéma expérimental, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il y a encore des gens qui créent, je veux dire des jeunes gens?
Alors aujourd'hui, je ne connais pas... Pas de cinéaste, enfin il n'y a pas de cinéaste à ma connaissance
qui se
revendique officiellement comme disciple de Patrice Kirchhoffer. Il y en a peut-être, ou il y en aura peut-être. Hein. Et oui, aujourd'hui, le cinéma expérimental continue d'exister. Les coopératives qu'on a citées, comme l'Incon, le collectif Jeune Cinéma, continuent d'exister. Et d'autres cinéastes continuent de faire des films. Après, voilà, avec tous ces cinéastes-là, sont aussi le fruit d'une époque. On parlait du 16 mm pour les années 70. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Internet, on a le numérique, on a YouTube, et tout s'est beaucoup ouvert aussi grâce à ça, ce qui est une bonne chose.
D'ailleurs, si on veut voir des films de Patrice Kirchhoffer, il y a quoi comme opportunité? Vous dites que c'est effectivement Lightcone qui les distribue, mais concrètement, si là, demain, quelqu'un qui nous écoute se dit, bah tiens, je veux voir à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai que c'est beau d'en parler, mais il faut aussi voir, c'est très visuel. Donc.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques extraits en ligne sur le site de Lightcone. Donc ça, il y a déjà une façon de découvrir un peu quelques images. Il y a aussi un reportage Arte.
Oui, du court-circuit. Parce que, bah, avec Nicole Brenez, qui est aussi une des grandes spécialistes du cinéma expérimental et qui préface votre ouvrage et qui décortique plusieurs de ses films en même temps qu'on les voit. Quoi. C'est assez intéressant.
Et, oui, donc ça permet de découvrir un peu ses films. Après, je pense que si quelqu'un veut vraiment aller voir les films, faut contacter Lightcone et voir avec eux. Et de toute façon, Patrice ne voulait pas que les films soient complètement sur Internet, dans une distribution libre. L'idée, c'était quand même que ce soit des films qui soient vus dans un contexte de qualité, dans une salle de cinéma. C'était vraiment des films qui ont été faits pour être vus au cinéma.
D'accord, c'est aussi assez important, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, des films expérimentaux, on ne les voit pas forcément qu'au cinéma. On les voit dans des dispositifs assez variés. Donc c'est vrai que c'est des films au cinéma, ça comptait pour lui.
Et bah, dans l'histoire du cinéma expérimental, même dans la façon d'ouvrir un peu les possibilités du cinéma expérimental, on a vu énormément d'exemples où en fait le cinéma est sorti un peu des écrans, mais dès les années 50 avec le film est déjà commencé de Maurice Lemaître qui mélangeait un petit peu des formes de happening dans la salle et sur l'écran. Et oui, après, on l'a vu, ça s'est développé avec des expositions, etc. C'est vrai que là, on se rapproche plus de l'art contemporain, où on va aller voir un peu des films un peu dans des formes un peu muséales. On pense à Bill Viola, hein, qui est aussi un très bon exemple. C'était pas le cas du cinéma de Patrice Kirchhoffer, qui était resté vraiment sur un cinéma de salle.
Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas encore complètement convaincu pour lui dire ben, il faut quand même voir ce que ça donne, à qui ça s'adresse et pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser?
Alors, Patrice, qui était très lacanien, aurait dit que s'il ne s'y intéresse pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Et il ne va pas aller à convaincre les gens, et que quand les gens seront suffisamment convaincus par eux-mêmes, ils iront s'y intéresser.
C'est une bonne manière. Bah, on espère que ça vous a, malgré tout, peut-être que notre échange vous a convaincu. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir à Aligre FM, Raphaël Minnesota. Je rappelle que votre ouvrage, Patrice Kirchhoffer, un cinéma pariétal, est disponible aux presses du Réel. Alors, c'est un beau cadeau de Noël pour tous les fans de Patrice Kirchhoffer, de cinéma expérimental, ou ceux qui ont envie un peu de creuser ça plus en profondeur. C'est donc ainsi que s'achève notre émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On retrouve Vive le cinéma une fois par semaine, et nous, on se retrouve le mois prochain. Et là, on se quitte avec Brian Eno, By This River. Down, 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 ever falling down.
as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came.
Écoutez Aligre FM 93.1. Vous écoutez Aligre FM 93.1.